Il est 1h, le flash, Laura Dulieu. La CFDT et la CFTC annoncent une ultime réunion du conclave sur les retraites le 23 juin prochain. Pas d'accord donc à l'issue de ce qui était censé être la dernière journée de ce conclave. Le MEDEF dit n'avoir pas encore décidé s'il se rendrait à cette dernière rencontre. Donald Trump exige une capitulation sans condition de l'Iran. Le président américain se montre de plus en plus menaçant envers le régime de Téhéran, 6 jours après le lancement par Israël d'attaques sur le pays. Les États-Unis savent exactement où se cache le guide suprême iranien, ajoute encore Donald Trump, qui ne compte pas l'éliminer, du moins pour le moment, menace le chef d'État américain. De son côté, Emmanuel Macron avertit que toute tentative de renversement du pouvoir en Iran par la guerre entraînerait le chaos dans le pays. Il appelle à revenir à la table des discussions. Le chef d'État français qui s'exprimait au deuxième jour du sommet du G7 dans l'ouest du Canada, sommet quitté dès le premier jour par Donald Trump. Le prochain G7 se tiendra par ailleurs en France, à Évian, en Haute-Savoie, en juin 2026. Le G7 encore qui affiche son soutien à l'Ukraine, mais sans Donald Trump. Il s'est opposé à une déclaration forte pour condamner la Russie, alors qu'au moins 14 personnes, dont un Américain, ont été tuées à Kiev la nuit dernière par une attaque russe, l'une des pires frappes de Moscou sur la capitale ukrainienne, selon Volodymyr Zelensky. Plus de 50 personnes ont été tuées par Israël près d'un centre de distribution de nourriture à Khan Younes ce mardi, selon la défense civile de l'enclave. Un centre géré par l'organisation soutenue par Israël et les États-Unis. Selon les secours, Israël a visé les Palestiniens avec des drones, puis avec des chars israéliens qui ont tiré plusieurs obus sur la foule. Citroën rappelle toutes les C3 et les DS3 en Europe après un nouvel accident mortel la semaine dernière. Jusque-là, le constructeur avait invité certains conducteurs à faire remplacer leurs airbags, mais pas à cesser d'utiliser leur véhicule. Désormais, c'est un rappel stop drive dans toute l'Europe qui est déclenché. Autrement dit, une immobilisation immédiate de tous les modèles C3 et DS3, quelle que soit l'année de production, suivie d'une réparation. Ça concerne plus de 440 000 voitures, dont 82 000 en France. Et les airbags Takata sont défectueux. Ils peuvent projeter des bouts de métal dans l'habitacle en se déclenchant. C'est ce qui a tué une conductrice la semaine dernière. Deuxième accident mortel dans l'Hexagone, mais il y en a déjà eu 17 dans les Outre-mer. Il était une légende du foot français. Bernard Lacombe est mort ce mardi à l'âge de 72 ans. Il était hospitalisé depuis le mois de janvier. Et si l'attaquant a fait l'essentiel de sa carrière à l'Olympique lyonnais, c'est avec les Girondins de Bordeaux qu'il deviendra champion de France dans les années 80. Champion d'Europe aussi avec les Bleus en 84. Il était aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France.
Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info. Les informés, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de décryptage du soir, les informés du soir. Votre rendez-vous de débat, c'est à la radio sur France Info et le canal 16 de la TNT. Bonsoir Agathe.
Bonsoir Jean-Rémy, bonsoir à tous.
Quel est le programme ce soir?
Les États-Unis sont-ils en train d'entrer en guerre contre l'Iran? On se pose la question ce soir alors que Donald Trump affirme que les Américains ne comptent pas éliminer le guide suprême iranien, du moins pour le moment. Cette guerre est-elle en train de changer de dimension? Quelles conséquences aurait une entrée en guerre des États-Unis et une chute du régime iranien? Comment expliquer aussi par ailleurs le changement de ton des Européens vis-à-vis d'Israël? Ont-ils tous peur de l'Iran? Dans un instant, l'éclairage de Christian Chesneau, grand reporter à Radio France, spécialiste du Moyen-Orient. Peut-on encore sauver le conclave sur les retraites? Les discussions s'embourbaient à la mi-journée. Elles se poursuivent. Sommes-nous en train de toucher les limites de la méthode Bayrou?
À 20h45, on retrouvera les cartes blanches de l'éditorialiste à I24 News, Christophe Jacubizine, directeur de la rédaction des Échos, Elisabeth Tholomé, journaliste politique à Politico. You got a lot. Now you're the man. You got to understand.
You don't need to make the scene. Like you, she feels all the weight you're under. And when she breaks, is it any wonder? I know sometimes it crosses your mind to get on out and stay hard to find. Before you try, you'd better look in her eyes.
Et Boule à Facettes jusqu'à 2h. Nostalgie. Nostalgie Disco Fever sur Nostalgie. Nostalgie, le disco sans modération. Nostalgie, Disco Fever. 2h sur Nostalgie.
Et c'est chiant parce que je parais un peu niais, mais la France est l'un des pays les plus tolérants en termes de communauté, qui accepte la population la plus facilement. Il y a qu'à voir, hein, je suis portugais, donc je sais de quoi je parle, et ma famille.
Donc ça veut dire
bah ça, le taux de mariage mixte en France est un des plus élevés d'Europe. Ouais. Donc si la France était
un quasiment ça et quasiment du monde hormis
bien sûr,
hors
mais bien sûr.
D'ailleurs.
Mais Félix, mais avec qui alors?
Bah, mixte, même mixte métissage, blanc, noir, français d'origine maghrébine, etc. Il y en a plein.
Philippe, ça veut dire
un Toulousain avec une Bordelaise, c'est possible?
Tu parles.
Non.
Philippe, ça veut dire que vous ne regarderez pas cette émission ce soir, alors, du coup?
Je la regarderai, mais je sais comment ça va se passer et je sais où ça va se diriger. C'est-à-dire qu'on va accuser encore des Français.
Non, mais il n'y a pas. Enfin, sincèrement, visiblement, on n'a pas tous vu la même émission, mais il n'y a pas de biais idéologique.
Non.
Il n'y a pas l'idée de dire attention, les Blancs, c'est des racistes et les autres sont mais que des victimes. C'est pas ça. C'est d'expliquer. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer comment notre cerveau, finalement, est constitué et sans qu'on se rende compte, effectivement, on peut être dirigé à vouloir privilégier les gens qui nous ressemblent plutôt que les autres, alors que on peut se dire bah non, je suis pas raciste.
On est d'accord, etc. C'est toujours les mêmes exemples qui sont donnés.
Et les deux peuvent coexister dans ton cerveau, mon cher.
C'est l'explication scientifique qui est intéressante.
Mais excusez-moi, on parlait de discrimination au travail, par exemple, à l'embauche, etc., etc. Chez moi, dans ma boulangerie, enfin dans les boulangeries de mon employeur, en tout cas, à l'embauche, jamais on discrédite en disant bah c'est une personne de couleur, etc., etc., etc. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, on est en France, on est une communauté française, il y a plus de blancs que d'arabes ou que de noirs, je trouve ça plutôt normal, je sais pas vous, et c'est un peu casse-pied de toujours taper, en fait, là-dessus. Encore une fois, on est en France, mes parents sont venus en France, en tant que portugais, ils étaient blancs, ils étaient quand même moqués, parce que forcément, qui dit portugais, dit femme de ménage ou maçon. Et voilà. C'était la vérité. En fait, c'est ça qui est pénible. Chez moi, j'étais moqué aussi dans ma jeunesse en disant ta mère c'est une femme de ménage parce que t'es portugais ou ton père il est maçon, et c'est la vérité.
Les oui, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut pas empêcher un Portugais qui ne veut pas être maçon ou femme de ménage.
Qui l'a empêché Personne n'a empêché Philippe de devenir directeur de boulangerie. Bon.
Ah, pardon, il y a eu quand même, pour beaucoup de communautés, la difficulté de. Bah, si, pardon, hein, même les
Italiens. Difficulté ne veut pas dire empêcher ou interdire. Oui, difficulté, toute vague migratoire a des difficultés à la première génération. Non, toute immigration. Mais écoutez, quand dans les années 70-80, les Burkinabés ou les Maliens sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont eu des difficultés à s'intégrer. C'était en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont complètement insérés dans la société. Pour certains, ils sont même devenus ivoiriens. La première génération a des difficultés. Elle n'est pas très bien reçue. Allez regarder comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et aujourd'hui, ça se passe bien.
Merci à Philippe. À bientôt, Philippe. Alors, est-ce que vous allez regarder, simplement, puisqu'on a parlé de cette émission, et pour voir ce que vous en pensez, c'est un non, je ne vais pas regarder. À 75%. Mais si France 2 fait 24% de PDA demain,
ça sera un très bon score.
On peut vous dire que ça sera un bon score pour eux. Effectivement. Dans un instant, avec les GG, le conclave des retraites. Alors, normalement, on doit tirer le rideau aujourd'hui sur le conclave des retraites, voulu par M. François Bayrou, le pape François.
Donc, le pape François.
Oui, ah oui, François Bayrou, parce qu'il a, c'est un conclave, le pape François.
Dis donc.
Alors, parmi les propositions qui sortiraient de ce conclave, ce serait l'idée d'une prime senior pour les retraités.
Quel rapport avec le budget ?
En fait, c'est-à-dire que vous êtes senior.
Pour faire des économies, on va créer une prime. C'est bien ça, le concept,
dis-moi. Et on pourrait vous inciter à rester avec une prime pour pas vous preniez votre retraite. Enfin, c'est un mécanisme à la mort, moi le. Mais on va vous expliquer ça quand même et vous venez en parler avec nous, il est 11h25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
Deux heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr. Et sur l'appli RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, toutes les discussions, c'est avec nous que vous les avez, bien évidemment, de 9h à midi, tous les jours, à la radio, à la télé, Didier Giraud, Jérôme Marty, Barbara Lefebvre, voilà les grandes gueules du jour, vous avez les podcasts à votre disposition, ça c'est sur notre site internet rmc.fr ou bien sur l'appli RMC, vous avez l'onglet podcast et vous retrouvez ainsi les petites discussions qu'on peut avoir pendant la pause pub, et là c'était une discussion de haute tenue sur les fonds d'écran. Qu'est-ce que les grandes gueules ont comme fond d'écran?
Là, il y a du scoop.
C'est légendaire même.
Il y a du scoop.
Je vous conseille de retrouver ça en podcast. Maintenant, avec Barbara Lefebvre, avec l'ami Didier Giraud, avec le docteur Jérôme Marty, parlons des retraites, ou plutôt des initiatives, des idées, des propositions de François Bayrou à l'issue du conclave. Il se termine aujourd'hui.
Et cette nain.
Alors, François Bayrou, c'est qui ? C'est dormeur, c'est prof, c'est...
Ça plaît ? Non, pardon.
T'as pas été timide ?
Donc, c'est grincheux, c'est... Alors, François Bayrou,
c'est moi.
Une idée.
Il y a Beg.
Non, il n'y a pas Beg dans les...
Y a qui ?
Beg.
Beg. Non, il n'y a pas de Beg, non.
Non, c'est... Non. Donc, tiens, les 7, on se les rappelle en podcast tout à l'heure, les 7.
Ah oui, voilà.
C'est encore un podcast légendaire.
Là, ça va être un truc de légende.
Bon, alors attendez. Donc, François Bayrou propose au syndicat et au patronat une prime pour les salariés seniors qui resterait à travailler.
Oui, c'est une façon peut-être de débloquer la situation. Alors, il faut quand même dire que le conclave, peut quand même aboutir à quelque chose de positif, parce qu'on a, on a viré, en tout cas ils se sont virés eux-mêmes, ceux qui ne signent jamais d'accord sur leur retraite, à savoir la CGT-FO. Une fois que tu enlèves la CGT-FO, t'es entre gens quand même qui ont l'habitude de discuter, de négocier, la CFDT, la CFTC, la CGC pour les cadres, le MEDEF, la CPME, t'es entre gens, on va dire, de bonne tenue. Donc c'est là où François Bayrou a été assez habile, c'est-à-dire que le conclave a finalement pu se poursuivre avec des gens qui ont l'habitude de signer des accords. Et donc l'idée pour obtenir enfin cet accord, c'est de mettre en place cette prime senior. Quand un salarié qui aura atteint ses droits à la retraite décidera de rester au travail, on pourrait lui verser une partie de sa retraite en plus de son salaire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va pas coûter encore un pognon dingue? Parce que c'est un peu l'idée. Parce que l'idée, quand même, c'est de faire des économies. Donc là, une nouvelle prime, une fois de plus. C'est un peu la façon de... Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Une question.
Il s'agirait en fait d'un encouragement à l'activité. Voilà, c'est-à-dire que tu as l'âge de prendre ta retraite à 64, par exemple, mais tu as envie de continuer. On me dit, super, allez-y. Donc tu continues à travailler, donc tu cotises, tu remets de l'argent dans le pot et on te donne quand même une partie de ta retraite.
Mais
comme une prime.
Est-ce que c'était ça le but du conclave?
Non.
Ah,
non.
D'accord, ok.
Mais ça, c'est pour essayer l'acceptation.
Non, mais
ça,
et encourager.
Non, mais le but de ce truc-là, d'abord, c'est de faire. Poursuivre le conclave au-delà de la journée d'aujourd'hui où il doit se terminer. Ah. Donc là, il nous sort ce truc. Ça veut dire, si vous le demandez gentiment, je vous en remettrai un peu. Je vous rajouterai bien 5-6 jours de discussion pour qu'on arrive à.
Ah bon?
Non, mais ça va plus loin que ça. Il y a ça.
Le fond, l'idée, c'est quand même de faire travailler les Français un peu plus. Comme on ne peut pas passer à 65 ans, 66 ans, comme le préconise le corps, parce que le corps dit qu'il faut être à 76 ans et demi, eh bien là, on vous dit, 64 ans, c'est bien, mais si vous pouviez continuer un peu
mais
travailler
sur le fond,
plus,
on
vous donne une prime.
Là, ils ont pris l'exemple de ce qui existe chez les médecins. Je rappelle que la médecine générale, elle tient grâce à 15 à 20%. Sur la totalité des généralistes, de retraités actifs, c'est-à-dire de gens qui sont à la retraite et qui perçoivent leur retraite et perçoivent les actes qu'ils font en étant libéral en plus, ce qui les maintient en activité et qui fait que normalement, en médecine générale, tu pars à la retraite à 67 ans, j'insiste bien, 67 ans, et la plupart des médecins partent à 72, 73, 74, bien usés, mais ça les fait maintenir. Parce que comme les retraites sont merdiques par rapport à leur activité. Voilà. Mais au-delà de ça, moi, la question que ça me pose, c'est et pour les politiques dont une grande part ont dépassé l'âge de la retraite et continuent à exercer, ils vont percevoir leur retraite
aussi. C'est le cas déjà.
Tout en exerçant.
Ils
ont leur salaire de député plus leur retraite, retraites sont cumulatives et qu'ils en ont des points. Ils vont percevoir 10% de l'ensemble de leur retraite.
De leur fonction, c'est-à-dire par exemple, il y a beaucoup de fonctionnaires en politique, ils sont retraités de la fonction publique et ensuite ils touchent leur mandat.
Mais ils ont aussi des retraites de maire, de député.
Il y a
quelque chose qui me gêne dans le fond.
C'est trop bien de l'être un peu.
Dans le fond de la proposition. En fait, en dehors du fait qu'on va créer une prime pour faire des économies, ça, j'ai toujours pas compris. En macroéconomie, je n'ai pas compris le concept.
Si, parce que si tu travailles.
Non, mais bien sûr, j'ai bien compris. Dans ce qui est affiché, c'est quand même qu'on va créer une prime pour avoir un accord dans un conclave où on devait faire des économies. Voilà, c'est quand même ça qui est choquant. Et sur le fond du fond, comme on sait qu'on n'arrivera pas à reculer l'âge de la retraite, on va proposer une prime aux gens en disant « Certes, vous avez atteint l'âge légal, mais restez encore au travail. » Et ça résout pas le vrai problème de fond qui empêche de reculer l'âge de la retraite, c'est la pénibilité.
Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont les plus...
Je mets des critères pénibilité à côté.
Le couvreur,
les gens qui sont le plus hostiles à reculer l'âge de la retraite, c'est des gens qui sont dans un métier de pénibilité. Et ces gens qui sont dans un métier pénible, ces gens-là, ils en ont rien à foutre d'avoir 1500 balles de plus parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et à un moment donné, tu vas encore déséquilibrer le système où ceux qui sont dans un métier, on va dire, plus intellectuel que manuel, enfin moins physique.
C'est pas de leur faute, hein.
Mais je dis pas que c'est de leur faute. Mais du coup, ces gens-là, tu vas leur permettre de cumuler activité et retraite. Quand d'autres ne pourront plus physiquement continuer à travailler. Et en plus, il y a quand même aussi des histoires d'espérance de vie à la retraite
donc
derrière.
Tout le monde doit s'arrêter au même moment avec ton système.
Pas du tout. Laisse-moi finir, Olivier Truchot. Moi, je pense que la vraie réforme qu'il faudrait faire, c'est d'aller non plus vers un système de répartition, mais vers un système de capitalisation avec une durée de cotisation. Voilà, c'est une durée minimale de cotisation qui fait qu'on est tous égaux.
Oui, mais il faut que ça soit équilibré, parce que tous égaux, il faut quand même que ça s'équilibre.
Non, symbolique. Il faut arrêter avec les mesures d'âge. Il faut faire avec les annuités, le nombre d'années que tu as.
Aujourd'hui,
non, quand tu as commencé à travailler en alternance à 18 ans, ou à
moi, ou là, 16.
Moi, je connais là des gamins, ils sont déjà en alternance, ils ont 16 ans. Ils touchent des clopinettes et ils travaillent. Ils sont bien, bien, bien exploités parce que, et d'ailleurs, il n'y a pas que l'apprentissage dans les métiers manuels. Je connais aussi des gamins qui sont en train de faire des bac plus 3, bac plus 4, des masters dans certains domaines de management et tout, de banque. Ils sont bien exploités aussi, et je ne vous raconte même pas l'exploitation aussi. Hein, donc, tout le monde se gaffe bien avec les stagiaires et, l'apprentissage. Hein. Mais en tout cas, tout ça, c'est des gens qui travaillent et qui cotisent. Ces gens-là, moi, je suis désolée. Quand tu as commencé à travailler, c'est à partir de ça qu'on compte tes
annuités.
Plus tu cotises, plus la pénibilité de ton travail. Moi, je trouve que toutes ces discussions qui font comme si un plombier, un couvreur et un manager de RSE en entreprise ou un prof, c'est exactement la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même usure et tu n'arrives pas dans le même état à la retraite. Encore une fois, ce pays, c'est l'égalitarisme tout le temps, à tout craint, en permanence. Et on ne veut pas voir les différences de carrière. Une femme, ce n'est pas pareil qu'un homme. Une femme qui travaille comme aide-soignant ne doit pas être catégorisée de la même façon qu'une femme enseignante.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas profiter pour une fois
excuse-moi, la vie
est-ce qu'on ne pourrait pas profiter du conclave pour aborder la retraite et l'activité au-delà de la retraite d'une autre façon? C'est-à-dire que ce pays qui, encore une fois, surfiscalise tout le monde pourrait enfin un jour regarder ça du côté de l'impôt et dire mais vous avez suffisamment donné au pays toute votre vie, si vous voulez travailler au-delà de la retraite, tout ce que vous percevez c'est net d'impôt. Net d'impôt, ça serait une vraie révolution. Ça serait une vraie révolution parce que le pays s'est largement gavé sur votre dos pendant 30 ans,
une prime.
Là vous voulez travailler au-delà, plutôt que vous filez une prime ou nette, ben on va vous dire c'est net d'impôt parce que vous avez suffisamment donné au pays.
Non mais
ça résout pas le problème puisque on leur dit il faut continuer au-delà de l'âge légal pour faire des cotisations.
Ben oui, mais parce que c'était parce qu'on le sait qu'il faut faire ça. Excusez-moi, mais il y a qu'en France, on se masque la réalité.
Je suis d'accord avec toi.
Il y a moins d'enfants. On vieillit, on est moins en moins à cotiser. Donc à un moment donné, soit on demande à ceux qui cotisent de cotiser encore plus, donc c'est-à-dire encore plus d'impôts, un salaire net encore plus bas, soit tu travailles plus longtemps. Et dans tous les pays européens, on travaille plus longtemps. Et qu'en France, on pense qu'on ne doit pas travailler plus longtemps.
Non, et puis surtout...
Je termine, on ne va pas financer la vie des gens à ne rien faire pendant 30 ou 40 ans par le Saint-Esprit.
Je suis d'accord avec ça.
Voilà. Et le système par répartition, c'est les gens qui bossent. Et pardon, les gens qui bossent, ils commencent à en avoir un peu marre. Parce que les gens qui bossent, ils payent.
C'est ça que je te parle, Olivier.
Ils payent la solidarité, ils payent les retraites, etc.
Ils sont pas sûrs qu'ils en bénéficient.
Donc, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on dise à tous ces gens ben oui, on vit plus longtemps, on travaille un peu plus longtemps. Je suis d'accord, le couvreur, c'est pas la même chose que le professeur d'université. Mais enfin, tous les Français ne sont pas couvreurs. On peut trouver des critères de pénibilité.
D'accord.
Mais d'une manière générale, je pense qu'on peut tous.
Mais ces grilles de la pénibilité, personne ne l'a jamais posée sur la table, Olivier.
On peut aussi.
La grille de la pénibilité, personne ne l'a jamais posée sur la table. On en parle de pénibilité.
Naturellement, à Paris, des hommes comme Texier...
Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, est toujours avec nous.
Dis-moi. veut plaire à tout ce qui brûle.
On devient plus grand. Mais ça me révolte, ça me fait mal, ça me fait mal.
Le moment grave que nous vivons, je pense que...
qui sont complètement fous sur les retraités.
Pas pour tout le monde. Régime complémentaire géré par les partenaires sociaux.
Une journée. Bah t'as un doute.
Comme on l'entend, il y a des.
Et à tout moment en podcast sur.
En Iran.
Pas comme d'habitude pour me plaindre. Au contraire. Alors qu'est-ce que je pense de cette histoire de surprime? Bah, elle existe déjà. Donc c'est encore Monsieur Bayrou. Il n'est pas Premier ministre. Non, il est chef de production.
Thank you.
Toute la programmation de Radio Classique de nuit sur radioclassique.fr.
mais il a eu le courage de repartir sous un faux nom, de traverser la France, la zone dite libre, et d'aller rejoindre les forces françaises libres, où il a de nouveau combattu. De même, d'ailleurs, que ce Jean-Anné d'Astier-Lavigerie, qui par la suite a été fait prisonnier dans un camp allemand, et a réussi également à s'échapper de ce camp.
Vous considérez, en somme, n'est-ce pas, que à l'origine de cette résistance de Suisse, il y a eu tout de même l'appel du 18 juin qui a éveillé l'espérance et, en éveillant l'espérance, a suscité l'action.
Sans conteste, à ce moment-là, parmi ces jeunes gens français qui fuyaient la relève, il y en avait qui ont retrouvé un certain esprit de résistance et qui penchaient déjà, je ne dis pas pour le général Giraud, puisque son nom n'était pas encore connu, il était prisonnier à Königstein, mais depuis sa fuite, nous avons pu savoir que ces jeunes gens étaient rattachés au mouvement de l'armée secrète. Et l'un d'eux, dont je n'ai plus retrouvé la trace, se refusait à accepter l'étiquette de gaulliste, parce qu'il considérait que le meilleur moyen de préparer la rentrée en France dans le combat collectif était cette préparation. Son nom de guerre était d'ailleurs Flamand. En dehors de ces groupes plus ou moins disparates, qui avaient un esprit de résistance, mais qui n'étaient pas nécessairement rattachés à l'esprit qu'on appelle gaulliste, qui n'étaient pas inspirés par l'appel du 18 juin, il y avait des hommes qui venaient de France parce qu'ils étaient, par exemple, rattachés au mouvement de témoignage chrétien, comme Jean-Marie Soutou, dont on sait tout ce qu'il a fait à Genève à cette époque-là.
Ce que je voulais vous demander en conclusion, c'est quelle a été, d'une manière générale, la réaction de la Suisse romande ou alémanique à l'appel du 18 juin.
La plus grande difficulté en Suisse romande a été celle-ci. Les gens les plus francophiles, on sait que René Paillot a toujours été francophile, se trouvaient tout de même enclins à approuver ce qu'avait fait le maréchal, parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen d'épargner à la France
des souffrances
nouvelles. Mais d'autres, par leur lecture, qui était en général soit l'Action française, soit Candide, soit Gringoire, penchés vers les idées maurrassiennes. Et c'est pourquoi l'appel du 18 juin a eu beaucoup plus de répercussions en Suisse alémanique, où par exemple la Weltwoche, journal de gauche, ou la Gazette de Zurich, ont tout de suite montré des sympathies avec une liberté assez étonnante si l'on pense à la menace que la Suisse courait, puisqu'on a parlé souvent d'une invasion possible et qu'elle était cernée de tous côtés par l'armée allemande. Et alors, beaucoup de Suisses alémaniques ont montré dans ces circonstances-là un très grand courage.
Mais il n'y avait pas que la France et l'étranger. Il y avait aussi les possessions qu'avait alors la France à travers le monde, ce qu'on appelait à cette époque l'Empire. On sait ce qu'a été la réaction, au moins officielle, des autorités de l'Empire dans la plupart des territoires. Il y a eu toutefois une exception, et cette exception, ce fut pendant quelques jours l'Indochine, tant qu'elle eut pour gouverneur général le général Catroux, que vous allez maintenant entendre. Et vous allez voir que le malentendu sur la signification qu'il fallait attribuer à la prise du pouvoir par le maréchal Pétain n'était pas moins grave en Indochine qu'à Paris même.
Bon, c'est extrêmement simple. Il y a eu une méprise totale de la part de moi-même et de l'opinion de l'Indochine, car nous sommes imaginés...